compte tenu de nos temps, il nous reste une petite dizaine de minutes pour discuter, poser des questions, les grands impatients.
Je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez du diplôme de patient expert ?
Vous n'avez pas parlé des médicaments essentiels et de la Suède. Bon, peut-être vous pouvez nous dire un mot là-dessus. Vous n'avez pas parlé non plus de DNDI comme un modèle qui vient montrer une alternative possible. Et enfin, vous n'avez pas parlé de candilème, du normal et du pathologique. Parce que c'est très bien de faire des autopsies chez les gens vivants. Ça permet de gagner du temps. L'imagerie contemporaine, l'incidentalome, tout ça, c'est le fruit de l'autopsie prématurée. Mais il faut déjà s'interroger sur le caractère pathologique. Alors, bien entendu, quand vous parlez de l'action qu'on peut avoir sur les normes, il faut aussi s'interroger sur comment les normes ont été établies et quelle est la réalité de la frontière où il semblerait que la norme décide que au-delà c'est la pathologie et en deçà c'est du normal.
Pardon, on va prendre une petite question.
Vous notez, vous n'allez pas me souvenir de tout.
Tu veux un bloc-notes?
Oui, j'aurais aimé savoir que c'était les dessous de l'affirmation du président de France Assos Santé quand il a pu dire qu'il y avait une perte de chance pour les patients si on limitait l'accès aux urgences. Donc j'aimerais bien savoir quels sont les dessous de cette affirmation à partir du moment où vous êtes conseiller médical de ce monsieur.
Diplôme patient expert, ça s'inscrit dans le modèle de Montréal et Université des patients. Je suis complètement pour parce qu'on est sur une montée en charge à taux de durée. C'est pas la surmédicalisation dont on parle, c'est le modèle alternatif de régulation du prix du médicament, DLDI. Liste essentielle plus, parce qu'on vous dit, mais parce qu'on a trop de MeToo et DLDI, où il y a d'autres, c'est les licences d'office, le protocole de Doha, c'est pour peser sur l'accès au marché.
C'est pas tout à fait pareil, la licence d'office, c'est le DMD.
Oui, mais c'est le même mouvement. C'est le même mouvement qui va. Pour moi, j'appelle ça mouvement radical, etc. Oui, bien sûr. Alors, vous avez d'autres exemples. Il y a des hôpitaux américains qui viennent se mettre ensemble et qui ont rappelé une usine de générique. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il dit, il y a tellement d'argent aussi, donc on se fait une usine de générique. Donc, tout ça, c'est. C'est la contre-offensive face à la dérive des prix du médicament. Ce n'est pas pour moi strictement la surmédicalisation, même si ça participe. Et puis après, alors oui, ben non, mais je pense que nous, on est très sensible au problème des déserts sanitaires. La France est un grand pays, donc si d'un côté vous voyez vanter l'accès très rapide à la thrombectomie dans l'AVC et puis vous ne vous retrouvez pas pris en charge, oui, c'est un motif d'inquiétude. Donc Alain Michel il le dit pour ça. Maintenant, dans le même temps, on sait très bien qu'il y a un problème d'accès aux urgences et de déséquilibre avec les soins primaires en France. C'est un peu inconscient. Mais c'est un sujet difficile.
Julia Léa, Université d'Ailier pour les médicaments essentiels. Je vous avais rassemblé. Alors hier, on avait fait une présentation ici et effectivement, donc comme. Tu sais, on travaille sur la question de la R&D et comment créer des modèles de R&D alternatifs. Et ce qui suppose quand même que nous ayons un projet de société et une organisation collective qui pense à la recherche équitable. Ma question est, qu'est-ce que tu penses, toi, Jean-Pierre, quel serait le rôle des universités? Parce que un truc qui est ressorti hier, c'est que, en fait, le fait que je dise oui, le rôle des universités dans la recherche équitable, le fait c'est qu'en France, effectivement, il semble que les universités ne sont pas en train de faire de la recherche, ou suffisamment de recherche. Et en même temps, On remarque également que la France est un grand acteur dans les essais cliniques et qui fait également partie de ce système, n'est-ce pas? Comment on s'y retrouve et quel projet de société et qu'est-ce que moi, j'ai parlé aux jeunes lorsque je les engageais dans les universités, les jeunes des différentes disciplines, quel message leur passer, quel horizon leur donner face à ce qu'on vit actuellement avec tous ces problèmes et ces questions. Merci.
C'est pas une question, c'est une réponse à Candillem. Je vais présenter ici une très courte conférence sur Candillem et la surmédicalisation. J'ai fait une conférence à Toulouse là-dessus. Et si les personnes sont intéressées, ils me laissent leur mail et je leur envoie le texte de cette conférence.
Elle n'est pas publiée dans notre site.
Mais j'ai une version beaucoup plus longue.
Moi, j'ai beaucoup apprécié votre intervention. J'espère que votre orientation est partagée au sein de France Asso, plus largement. Ma question est la suivante. C'est que, à plusieurs reprises, vous avez fait allusion à ce que j'appelle la conscience aliénée des patients, des citoyens, etc. Quel est le point de vue ou la stratégie de France Asso pour faire évoluer les futurs? Vous avez bien présenté les positions paradoxales des patients. Ils ne veulent pas de pénurie, ils ne veulent pas de rationnement, mais ils veulent en même temps lutter contre la surmédicalisation. Ils veulent tout et le contraire. C'est ça la vraie question, parce que culturellement, il y a quand même encore l'idée que beaucoup de soins, c'est mérité dans un pays développé et c'est nécessaire pour être en santé. Quelle est votre stratégie pour faire évoluer la culture et la conscience des patients, de vos patients, des citoyens, etc.
Réponse ensuite sur les deux dernières questions, car le temps nous presse.
Donc, Juliana, oui, sur. Alors, ça ouvre un sujet assez compliqué, qui est celui de la compétitivité de la recherche clinique d'un pays. Et c'est mon sentiment, elle ne peut pas s'envisager sans référence au contexte international. Dans le modèle américain, le paradoxe, c'est que le modèle américain de valorisation des universités, en réalité, on ne peut pas ne pas dire qu'il a été un des moteurs de l'innovation positive qui est arrivée sur le marché. Donc ça pose un problème. Et donc tout le monde a tendance à valoriser. Après, c'est les conditions de la valorisation financière à la sortie de l'université, puisque les universités font des sociétés qui sont rachetées, qui posent problème. Dès que ça bascule dans la sphère économique organisée, on a la dérive des prix est liée aux pratiques financières de survalorisation des actifs des entreprises créées par les CHU. Bon. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire en France? On peut être très sélectif. Pour faire très vite, on a intérêt à être très sélectif parce qu'on surestime un peu nos forces. Ancien grand pays, colonial, etc. etc. On vit 3,5% du marché mondial du médicament en baisse. La recherche clinique, très bien, on est les seuls à inclure plus, mais quelle est la rentabilité nette, la performance de la recherche clinique française? Il faudra aborder le sujet un plus. Nous, dans les associations de patients, si vous savez, c'est vachement bien parce que le patient, il rentre dans une recherche clinique, etc., mais il n'y a qu'une chance sur deux que ces données soient utilisées parce que le taux d'utilisation en France est quasiment mauvais. Donc je dirais, bon, j'arrête là. Après, pour revenir rapidement sur l'Angulam, c'est pas philosophique, moi, c'est tactique et technique. Avoir fait passer des facteurs de risque de facteurs de risque pour que la population les intériorise comme une maladie et voir écrit même par des éminents spécialistes, il y a une explosion des maladies chroniques alors qu'il y a une explosion des diagnostics de facteurs de risque, c'est tout à fait étonnant. Tout à fait étonnant. Et je ne pense pas que c'est un grand complot industriel, je pense qu'il y a des erreurs conceptuelles. Mais il y en a toujours eu. Donc il y a des retournements. Donc nous, ce qui compte aussi, c'est se faire étiqueter hyper tendu à 45 ans parce que les Américains, avec quelques arrière-pensées, ont baissé le seuil. Oui, ça a des conséquences. On appelle la spirale morbide de la surconsommation médicamenteuse. Donc oui, remonter sur les choses. Il y a une autre question du
l'aliénation de la.
Oui, alors, sur les principes qui animent France Asso Santé, donc c'est pas aussi paradoxal que ça. On veut faire entrer dans un cadre la négociation des prix ou le modèle, qui fait référence à un modèle européen d'assurance maladie universelle. On dit, Alors, même les Américains le disent, même au plus haut niveau, puisque vous vous souvenez, le premier discours de Trump, c'est l'industrie pharmaceutique, je vais tout faire pour gérer les prix, etc. You won't get away with murder. C'est un truc de fou, quoi. Ça ne se traduit pas tout à fait littéralement. Vous êtes des grands criminels comme Greg Hutch, mais ce n'est pas très loin. Après, ce qu'il fera en réalité, on ne sait pas. Nommer un président d'un laboratoire pharmaceutique, ministre de la Santé, et un ancien lobbyiste de pharma, directeur de la FDA, ça s'accompagne mal avec « you won't get away with murder ». C'est lui qui pousse la loi du droit à l'essai, qui est déjà appliquée dans les deux tiers des États américains, qui fait que le patient pourra accéder à l'innovation dès la phase 1. Donc voilà, pour revenir à France Asso Santé, les principes, c'est accès, caractère universel de l'assurance maladie.
Vous avez parlé des déserts médicaux, je peux vous demander s'il y a des études pour les pertes de chance ou au contraire des gains de bénéfices. Alors, sur les AVC, les infarctus, ça me paraît évident que c'est une perte de chance, mais sur le reste, peut-être ça peut éviter que nos ennuis de surmédicalisation.
Merci.
En fait, ça rejoint à peu près la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose. En fait, ici, on est dans un département où il y a beaucoup de rationalisation du fait qu'on manque de moyens et qu'il y a beaucoup de populations qui demandent beaucoup de besoins. Et récemment, on a eu, il y a un an, hier, on disait que l'HAS, dans ses recommandations, ne sont pas reliées, mais il y a eu des recommandations officieuses faites entre les CPAM et les sociétés savantes, par exemple pour la radiologie, pour rebondir sur votre exemple de 30% d'IRM du genou. La CPAM, sont venues par les dames, nous dire dans les cabinets, en dehors d'un contexte traumatique, il faut arrêter de prescrire les IRM du genou sans avoir fait de radio préalable. Un mois après, on a eu les contrôles des médecins conseils de la Sécu qui ont envoyé des courriers à tout le monde en disant « Vous avez prescrit 12 IRM, il faut se justifier. » Et maintenant, la pratique courante de tous les médecins, en tout cas avec qui je travaille, ceux que je connais, c'est de prescrire systématiquement des radiographies du genou avant de prescrire une IRM, parce que sinon, on va se faire taper sur les doigts par la CPAM.
Pour vous répondre, j'ai cité l'exemple de mon ami chez Larry Gerber, le médecin généraliste au nord de Worcester, mais ça pourrait être pareil à Chicago, ça pourrait être pareil en Angleterre. La tendance, ça serait de dire de vous armer, vous, en disant, en fin de compte, arrêtez, voyez, enfin, comment dire, il y a un transfert de la gestion des risques, pour parler comme l'assurance maladie, à l'opérateur de soins. Alors que là, pour l'instant, on sent ce que vous dites, il y a un contrôle externe, ils arrivent, par exemple, les Anglais viennent d'arrêter les ROS. Vous voyez ? Parce que, et les Américains dans le temps appelaient ça la médecine de livre de cuisine, cookbook medicine, c'est-à-dire j'ai du vertical, je pars dans un truc, etc. Alors, Larry Gerber, les Anglais, tous ceux qui sont dans les modèles integrated care, ils commencent à voir, ils retrouvent une liberté de prescription très forte. Bon, ça, s'ils veulent prescrire de la télémédecine, ils peuvent, il n'y a pas de problème de paiement acte de la télémédecine. Et ils ont les algorithmes. Donc ils ne sont plus emmerdés par le contrôleur externe, vous voyez, ils deviennent leur propre contrôleur, ça c'est super efficace.
Ou l'algorithme, c'est le
contrôleur. Là, il y a de la marge, il y a du délire. Hein. Il y a la préférence individuelle des patients comme algorithme qui va s'imposer. J'espère, parce qu'il n'a pas du tout, à la Mayo Clinique, enfin c'est assez bien, si on parle surtout chez les personnes très âgées, si on parle des préférences individuelles des patients, c'est notre médecine qu'on fait. J'ai vu une slide de mes amis à France Asso Santé. C'est un vrai sujet, c'est la dialyse en fin de vie. C'est quoi le rationnel de la dialyse en fin de vie? On peut dire, Rénalou va dire, c'est une rationalité économique parce que dans le temps, la N69 a été invitée en France et Krohn Poulenc a drivé, si vous voulez, le remboursement de la dialyse en France, on en a fait une rente excessive. Donc tout le monde a intérêt à faire de la dialyse, à ne pas greffer, à ne pas faire du domicile. Mais après, il y a le choix individuel. C'est quoi la survie si j'ai 85 ans, je commence à avoir une IGRF à 10-15 et je vais me pourrir la vie à faire 3 allers-retours à un truc qui va me tuer de toute façon. Et c'est quoi ma survie? C'est quoi l'espérance de vie additionnelle, la qualité de vie? Donc dans certaines économies, on dit bah non, je ne vais pas idéaliser, je préfère mourir dans 6 mois, mais je vais faire un dernier voyage. Vous voyez. Donc, voilà, tout ce qui participe à l'empowerment des patients, même si ça va être critiqué, est vachement important.
Nous sommes évidemment très en retard, mais on va remercier encore une fois Jean-Pierre Péagé.